Le petit Johannes, chapitre 14. Johannes, enfin, releva son front prosterné. Les rayons du couchant entraient de billets dans la chambre, pareil à une volée de javelets d'heure. « Père, père, » murmura-t-il. La nature était radieuse, pas une feuille ne remuait, toute chose était en suspens dans la solennité de l'heure. En même temps que le soleil, entrait dans la chambre un bruissement qui était comme la chanson de la lumière. « Fils du soleil ! Fils du soleil !» Johannes redressa la tête. N'était-ce point la voix de Lycéron ? Lui seul lui avait donné ce nom. Mais il détourna les yeux vers le visage du mort, refusant de plus rien entendre. « Pauvre cher père » murmura-t-il. Soudain l'appel, de toutes parts à la fois, retentit, si impérieux que Johannes tressaillit d'un émoi inconnu. « Fils du soleil ! Fils du soleil !» Il se leva et regarda au dehors. La lumière ruisselait sur la cime des arbres, frissonnait au ras des herbes. L'ombre même se pailletait d'étincelles. Le ciel immense rayonnait jusqu'à l'horizon où commençaient à s'amasser les nuées du crépuscule. Au-delà des pelouses, entre les verdures et les broussailles, s'élevaient les dunes aux versants tout baignés d'heure, tandis qu'au creux des vallons flottaient des ombres d'un bleu profond. Calmes, les dunes ondulaient sous leur robe aux délicates nuances, et il émanait d'elles comme une prière pleine d'apaisement. Et Johannes éprouvait le même ravissement qu'au soir où Lycéron lui enseigna comment il faut adorer Dieu. Quel était ce vague profil vêtu d'azur et ressortant sous la lumière, comme une ombre environnée d'un âme d'or? N'est-ce pas Lycéron qui lui fait signe? Johannes se précipita hors du logis, mais il s'arrêta troublé. Sur les feuillages immobiles resplendissait la gloire d'un sacré dont le prestige l'écrasait. Dans cet éclat, la même image de clarté s'érigeait, dont le front se tressait de rayons, et dont les lèvres s'entr'ouvraient pour l'appeler. C'était sans aucun doute Lycéron, et d'un geste, il conviait Johannes à le suivre. Ses doigts tenaient un sceptre scintillant. Avec un cri d'allégresse, joie d'un long désir contrarié qui se satisfait enfin, Johannes courut à Lycéron qui, le visage souriant, s'éleva dans les airs, effleurant parfois la terre, puis remontant, légère et rapide, pareil à une fille de la Vierge emportée par la brise. Johannes aussi voulut prendre son essor ainsi que jadis et comme il le faisait un cœur dans ses rêves, mais ses pieds appesantis demeuraient rivés à la terre herbue. Avec effort, il devait se frayer un passage à travers les broussailles dont les branches lui cinglaient la face. Il gravit en haletant les pentes moussues des dunes. En dépit des fatigues, il suivait Lycéron, et ses regards ne se détachaient pas du sceptre qui rayonnait dans sa main levée. Les dunes l'entouraient. Dans les vallons s'épanouissaient des roses dont les corolles d'un jaune pâle se dardaient dans la lumière. Des fleurettes diaprées le sable, bleu clair, or ou pourpre. Des odeurs balsamiques flottaient. Johannes respirait les senteurs du thym et des mousses qui craquaient sous ses pieds, et une volupté, dont le comble approchait du vertige, le faisait défaillir. Devant Lycéron folâtraient des papillons aux ailes noires et rouges, de petits papillons aux ailes de soie, du bleu le plus tendre. Au-dessus de lui bruissait le vœu des scarabées d'or qui vivent sur les roses, et les gros bourdons dansaient entre les tiges de l'herbe brûlée par le soleil. Quelle jouissance et quel durable bonheur, pourvu qu'il pût être aux côtés de Lycéron. Mais Lycéron ne s'arrêtait pas un instant, et Johannes devait poursuivre sa course essoufflée. Des buissons épineux au feuillage pâle l'arrêtaient en le griffant de leurs piquants. Les bouillons blonds secouaient leurs têtes altières quand il les écartait pour passer. Il escaladait les pentes sableuses, se tailladait la main aux feuilles tranchantes des genêts, traversait des bosquets de bouleaux où l'herbe atteignait ses genoux. Des mares, d'où s'enfuyaient des oiseaux, luissaient entre les troncs des arbustes. Les senteurs des églantiers touffus se mêlèrent à celles des bouleaux et de l'amande, qui croissaient à foison sur les versants du mide. Il parvint à la lisière. Seul, le chardon marin, aux feuilles bizarres et d'un bleu déteint, poussait encore entre les tiges rares et grêles des genêts. Liseron était debout sur la crête de la dernière dune. Son sceptre éclatait de rayons éblouissants. Au-delà, une rumeur chantant aux secrètes séductions qu'apportait la brise. C'était la mer. Johannes pressentait son approche. Lentement, il gravit la pente. Il regarda devant lui et s'agenouilla. En atteignant le sommet, une magnificence l'environna. Les nuages du crépuscule s'étaient rangés pour faire cortège au soleil couchant. Il entoura de leurs blocs au beurre embrassé, et le reflet traçait sur les eaux un chemin de feu qui conduisait à l'entrée du ciel. Autour du soleil, là où la splendeur était aveuglante, les bleus et les roses les plus délicats se diluaient dans les profondeurs de la grotte de lumière. Le reste du vaste ciel rougeoyait. Johannes attendit jusqu'à ce que le disque touchait la mer. La route de feu semblait partir de la terre pour conduire au soleil. Alors il abaissa les yeux. Près de lui se tenait le fantôme de clarté qu'il avait suivi. Une nef, claire et scintillante comme le cristal, voguait auprès du bord dans le sillage de feu. À l'arrière, Liseron était debout et élevait dans sa main son sceptre rayonnant. À la proue, Johannes reconnut la mort sinistre. « Liseron ! Liseron ! » cria Johannes. Mais, tandis qu'il approchait de la nef merveilleuse, il regarda l'horizon. Dans la baie de lumière que bornaient les épais nuages frangés de feu, il aperçut une figure noire qui grandissait à mesure qu'elle avançait sur les eaux au remous embrassé. Les vagues de pourpre s'enflaient et s'abassaient sous ses pieds sans troubler sa marche tranquille. C'était un homme au visage pâle, aux yeux profonds et sombres comme les avait Liseron, mais ses regards exprimaient une tristesse infiniment douce et, de tels regards, Johannes jamais un cœur n'en avait vu. « Qui êtes-vous ? » demanda Johannes. « Êtes-vous un homme ?»«
Je suis plus qu'un homme. »
« Êtes-vous Jésus ? Seriez-vous Dieu ? » ?»«
Que tes lèvres jamais ne profanent ces noms. Ils furent jadis aussi sacrés que l'or des calices, précieux comme le blé nourricier. Mais, depuis, ils ont servi d'auge aux pourceaux et de marotte aux insensés. Ne les prononce plus. Leur sens a mené aux hérésies et leur caractère a prêté aux parodies. Que celui qui veut me connaître rejette ces noms et n'écoute que soi-même.
« Ah, je vous connais !» s'écria Johannes.
« C'est moi qui te fis pleurer sur le sort de tes frères, alors que tu ne pouvais comprendre tes larmes. Je te fis aimer quand tu ignorais encore ton amour. J'ai visité ton âme et tu ne l'as pas su. J'ai troublé ton cœur et tu ne m'as pas deviné.
Ah ! Que ne vous êtes-vous révélé plus tôt ?
Ils doivent verser bien des pleurs. Les yeux, avant d'avoir la grâce de me voir. Et ce n'est pas seulement sur toi-même que tu dois pleurer, mais aussi sur moi. Alors je t'apparaîtrai, et tu me reconnaîtras comme un vieil ami.
Je vous connais, et désormais, je veux être partout auprès de vous, s'écria Johannes.
Johannes tendit la main. Mais l'homme montra la nef qui lentement s'éloignait sur le sillage enflammé.
« Vois, dit-il, c'est le chemin qui conduit à tout ce que tu as désiré. Il n'y en a pas d'autre. Sans eux deux, et il désignait Liseron et la mort, tu n'aboutiras pas. Choisis. Là, lui la grande lumière. Là, tu t'incarneras dans ce que toi-même tu désires connaître. Mon chemin à moi, et sa main dessinait le morne crépuscule, et vers cette terre où l'humanité se lamente et languit. Sur cette route, ce ne sera pas la décevante lueur que tu as éteinte qui guidera tes pas, mais moi-même.
Maintenant que tu sais, fais ton choix. » L'image de Liceron devint confuse au lointain des fleurs. Joannès en détourna ses regards et tendit les bras vers l'homme. Tous deux ensuite allèrent à la rencontre du vent glacé de la nuit, vers la grande cité lugubre où gémissent les créatures. Un jour, peut-être, vous parlerai-je encore de Joannès, mais mon récit alors n'aura plus rien d'un conte.